Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la Sainte Sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment?
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce jeudi 3 février 2022. Nous avons le plaisir de vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. Front irakien ouvert, le réseau de DCA intégré Israël-Golfien tué dans l'œuf. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. À la une de ce journal, l'Iran soutient la stabilité au Kazakhstan et met en garde contre l'ingérence étrangère dans la région, déclaration du président Raïsi. L'Iran prêt à conclure un accord durable et fiable avec les 4+1 à Vienne. Et puis 13 civils tués lors d'une opération menée par les États-Unis à Idlib en Syrie. C'étaient les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. L'Iran soutient la stabilité au Kazakhstan et met en garde contre l'ingérence étrangère dans la région. Le président iranien Ebrahim Raïsi a exprimé le soutien du pays à la sécurité, à la stabilité et au calme en République du Kazakhstan, avertissant que l'ingérence étrangère pose un défi à la stabilité régionale. Lors d'une conversation téléphonique avec son homologue kazakh, Kassim Jomart Takayov, mercredi, Raïsi a averti que toute ingérence étrangère perturberait la stabilité dans la région. Il a déclaré que l'Iran, attaché de l'importance à la sécurité et à la stabilité, à la paix du pays ami et frère, le Kazakhstan, ajoutant « Nous soutenons l'établissement de la paix et de la stabilité dans la région ». Se référant à une récente rencontre avec Takayov en marge du sommet de Shanghai au Tadjikistan, Raïsi a déclaré « Comme je l'ai souligné lors de cette réunion, le niveau actuel des relations et de la coopération économique et commerciale bilatérale n'est pas proportionné au niveau des relations politiques. J'espère que dans la 30e année de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, nous ferons un grand pas vers l'amélioration du niveau de l'interaction économique ». Pour sa part, Tokayev a remercié l'Iran pour son soutien à l'indépendance de la région et déclaré « Au cours des 30 années écoulées, depuis l'établissement des relations diplomatiques, les deux pays ont pu atteindre un niveau souhaitable de relations étroites et amicales l'un avec l'autre et je suis sûr que l'avenir des relations bilatérales sera très fructueux et brillant ». Le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian a réitéré la volonté de Téhéran de parvenir à un accord durable et fiable avec le groupe de pays 4+1 lors des négociations dans la capitale autrichienne Vienne visant à assurer la relance de l'accord de 2015. Lors d'un appel téléphonique avec son homologue japonais, Hayashi Yashimasa, jeudi, Amir Abdollahian a salué les efforts de Tokyo pour aider l'Iran et les 5 autres parties à l'accord, officiellement connu sous le nom du Plan Global d'Action Conjoint PGAC, à faire progresser les pourparlers de Vienne. La République islamique d'Iran, a-t-il dit, est prête à conclure un bon accord durable et fiable. L'ancien président américain Donald Trump a unilatéralement quitté l'OPJAC en mai 2018 et a réimposé les sanctions anti-iraniennes que l'accord avait levées. Il a également imposé des sanctions supplémentaires à l'Iran sous d'autres prétextes non liés à l'affaire nucléaire dans le cadre de sa campagne de pression maximale. Le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian et son homologue émirati Abdullah bin Zayed Al Nahyan ont eu ce mercredi une conversation téléphonique et échangé des vues sur des questions bilatérales et régionales. Le très haut diplomate iranien Hossein Amir Abdollahian, lors de cette conversation téléphonique, a décrit les relations entre les deux pays comme positives et progressistes et a déclaré: de bonnes rencontres et consultations ont été établies entre les autorités des deux pays. Hossein Amir Abdollahian a d'autre part averti son homologue émirati que la présence d'Israël dans la région constitue une menace pour tous les pays de la région. Lors d'un appel téléphonique, Amir Abdollahian a déclaré au Cheikh Abdullah Ben Zayed que davantage d'efforts sont nécessaires pour limiter les facteurs qui sont à l'origine de la crise dans la région. Se référant à la guerre du Yémen, le chef de la diplomatie a déclaré que la poursuite du conflit n'est dans l'intérêt d'aucune des parties impliquées. Pour sa part, Ben Zayed dit qu'Abu Dhabi s'efforce d'encourager toutes les parties yéménites à trouver une solution politique au conflit sous l'égide de l'ONU. L'appel téléphonique intervient après une récente visite du président israélien aux Émirats arabes unis. En Iran, le leader d'un groupe terroriste passe en jugement. Les preuves présentées lors de l'audience suggèrent que le groupe a reçu le soutien de l'Arabie saoudite et d'Israël pour organiser des attentats terroristes en Iran. Un certain Habib Chab est accusé de plusieurs attentats à la bombe et opérations terroristes dans la province du Khuzistan, au sud-ouest de l'Iran. Il a dirigé un groupuscule qui se nommait le Mouvement de lutte arabe pour la libération d'Avaz. Au cours de la session, il a été révélé que des membres du groupe se rendaient chaque année en Arabie saoudite. Ils recevaient des instructions d'officiers du renseignement saoudien pour commettre des attentats sur le sol iranien. L'un des membres avait même rencontré le roi saoudien. Des documents ont en outre montré que Chab lui-même avait eu des liens avec l'ancien premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. La coalition d'agression dirigée par les Saoudiens a mené de nouvelles frappes aériennes au Yémen, ciblant un certain nombre de zones dans la province de Sanaa. Rien n'a filtré dans l'immédiat sur les éventuelles pertes en vie humaine ou matérielle. L'Arabie saoudite et ses alliés, à savoir les Émirats arabes unis, ont intensifié leurs attaques contre le Yémen ces derniers jours. Cela après que l'armée yéménite ainsi que les forces populaires ont ciblé un certain nombre d'installations sensibles dans la capitale des Émirats arabes unis, Abu Dhabi. Les Émirats font partie de la coalition d'agression saoudienne qui mène une guerre sanglante et dévastatrice contre le Yémen depuis mars 2015, dans le but de rétablir un régime fantoche et démissionnaire au Yémen. Des centaines de milliers de Yéménites ont été tués directement ou indirectement par la guerre. Les forces spéciales américaines ont mené une opération nocturne dans la province syrienne d'Idlib. Selon des témoins locaux, plusieurs civils, dont des enfants, ont été tués. Les rapports suggèrent qu'au moins 12 corps ont été sortis des décombres après l'assaut qui a duré plus de 2 heures. 7 d'entre eux étaient des enfants et 3 femmes. Néanmoins, le Pentagone décrit l'opération comme une mission réussie dans le cadre de la lutte antiterroriste, affirmant qu'il n'y a eu aucune victime américaine. Des hélicoptères américains ont atterri près d'un village, après quoi des explosions et des tirs nourris ont été entendus. La cible aurait été un haut responsable présumé d'Al-Qaïda. Des chasseurs américains ont ensuite détruit un hélicoptère qui a dû atterrir en raison d'une panne technique. En décembre dernier, les États-Unis ont mené des opérations similaires à Idlib, où pour une énième fois des civils syriens ont été blessés. Washington a déclaré qu'il enquêtait sur l'affaire, mais jusqu'à présent, aucune déclaration n'a été faite sur les victimes civiles. Le ministre israélien des Affaires militaires se trouve à Bahreïn, la dernière visite de haut niveau dans ce pays arabe du Golfe Persique depuis que Manama a normalisé les relations avec Tel Aviv. Lors de cette visite de deux jours, Benny Gantz doit s'entretenir avec les responsables de haut rang bahreïni et signer un accord de coopération en matière de sécurité avec le régime de Manama. La visite intervient près de deux ans après que le petit royaume a noué des relations diplomatiques avec Israël dans le cadre d'un accord négocié par les États-Unis connu sous le nom d'accord d'Abraham. L'année dernière, le ministre israélien des Affaires étrangères Yair Lapid s'est rendu à Bahreïn où il a inauguré une ambassade. Israël et Bahreïn participent à un exercice naval dirigé par les États-Unis actuellement en cours dans des régions telles que le Golfe et la Mer Rouge. Le ministre israélien des Affaires militaires, Benny Gantz, a visité jeudi la base de la 5e flotte de la marine américaine à Bahreïn, saluant les liens entre les trois pays. Les Bahreïniens opposés à un rapprochement avec Israël ne cessent de dénoncer la normalisation des relations avec le régime usurpateur. Enfin, le président américain Joe Biden et son homologue français Emmanuel Macron se sont engagés mercredi 2 février à coordonner leur réponse à la présence militaire russe à la frontière ukrainienne, a expliqué la Maison-Blanche. Lors d'un appel téléphonique, Joe Biden et Emmanuel Macron ont convenu de travailler en étroite collaboration à la fois sur plan diplomatique et en ce qui concerne les préparatifs pour punir la Russie avec de graves coups économiques si elle envahissait son voisin. Ils ont également réaffirmé leur soutien à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Macron a déjà déclaré qu'il pourrait se rendre en Russie pour chercher une solution diplomatique à la crise. Les États-Unis et leurs alliés accusent Moscou depuis fin 2021 de vouloir envahir l'Ukraine. Mais la Russie dit qu'elle n'a pas une telle intention et qu'elle déplace des troupes sur son propre sol parce qu'elle se sent menacée par l'expansion de l'OTAN vers l'Est. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Merci de rester avec nous. Irakien ouvert, le réseau de DCA intégré Israël golfien tué dans l'œuf. Dans la nuit de mercredi à jeudi 3 février, à peine quelques heures après que l'Iodostin eut au bout de trois semaines de totale aphonie, rompu le silence pour annoncer l'injection à Al-Dafra de quelques avions de la 5e génération de type F-18, F-22 ou pourquoi pas F-35, en même temps que le déploiement tout prochain de l'USS Cole au large d'Abu Dhabi, où les Zayed, secoués par la triple tempête balistique du 167, du 24 et du 31 janvier des Houthis, courent dans tous les sens pour se procurer quelques missiles dits antimissiles israéliens Tamir, eux aussi autant sinon plus inutiles que les Patriotes PAC-3, rénovés de Lockheed Martin, au nom de quoi les Yankees les ont d'abord totalement dépouillés, avant qu'ils ne les poussent, tête en avant, dans le volcan de Ma'arib. Une nuée de quatre drones, à sens unique, partie des frontières irako-saoudiennes, a fait irruption au-dessus des raffineries de Mustafa, après avoir parcouru un trajet sans faute de quelques 1800 km, trajet parsemé d'au moins 20 sites de DCA, planté à la base King Khaled en Arabie Saoudite, dans le nord de la Jordanie ou encore à Bahreïn, qui abrite le QG de la 5e flotte, ou encore à Al Udeid au Qatar, décrété il y a deux jours par Biden, nouveau allié non-OTAN de Washington. Depuis, c'est le choc puissance 1000 au royaume des palais en verre, car s'il est vrai que le ministère émirati des Affaires étrangères affirme à l'OTAN dans un communiqué publié ce matin qui n'a ni tête ni queue, avoir intercepté et détruit trois des quatre drones dans le ciel des Émirats, et ne rajoute rien au mérite de l'armée de l'air émirati ni à l'US Air Force et son escadron 380 basé à Dafra, il est aussi vrai que ce fort, malencontreux incident ne signifie qu'une chose. Un second front aérien asymétrique et irakien de surcroît vient de s'ouvrir contre les Émirats, un peu comme ce février 2021, quand deux kamikazes saoudiens se sont fait exploser en plein quartier populaire de Bagdad, quitte à déclencher une riposte militaire de la résistance irakienne, concrétisée sous forme d'une attaque au drone contre le palais des Salman, Yamame, à Riyad. Les Houthis du Yémen, apparus au début de la guerre au Yémen comme une milice aux pieds nus, savent désormais lancer des attaques coordonnées sur plus de 1000 kilomètres. Ils font preuve de précision dans le timing du lancement des différents éléments afin qu'ils puissent tous atteindre leur cible ensemble. Drones qui volent pendant des heures, missiles aux croisières et missiles balistiques qui volent en quelques minutes, tous attaquent la cible en même temps. Emma Harive, le journal israélien, d'ajouter « Ce qu'Israël devra faire, c'est dans la première étape, une transition de la défense personnelle à la défense territoriale, soit une capacité améliorée de défense locale, et plus tard, une défense aérienne conjointe avec d'autres pays. » Malgré l'absence des États-Unis de la région, mais le peut-il seulement, rien n'est moins sûr. La stratégie que la résistance appliquée depuis longtemps à Israël lui vaut 6 arènes de combats simultanés qui font un cercle, à savoir Liban, Gaza, Syrie, Irak, Yémen et Iran. Une stratégie qui tend à s'appliquer désormais après l'attaque de ce 3 février aux Émirats. Or, la DCA US Israël ne peut rien en termes circulaires, une DCA fondamentalement gérée dans le concept du carré comme Iron Dome, avec des radars sectoriels qui protègent une certaine zone d'une certaine direction. C'est tout ce qui oppose une coalition circulaire, axe de la résistance, à une pseudo-coalition aux 4 angles.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. La résistance yéménite a lancé une troisième attaque contre les positions des Émirats Arabes Unis. Autrement dit, la résistance yéménite a visé pour la troisième fois les profondeurs des Émirats Arabes Unis. La résistance yéménite avait déjà lancé une mise en garde contre le régime émirati, en quoi s'il y avait la poursuite des agressions contre le peuple yéménite, il va y avoir en fait des frappes douloureuses contre les Émirats Arabes Unis. C'est dans ce contexte que le leader du mouvement yéménite Ansarallah, Abdulmalek al-Houthi, a qualifié le régime israélien et les États-Unis d'ennemis numéro un pour les musulmans du monde entier. Les Américains et les Israéliens essaient d'abuser des problèmes qui s'opposent au sein de l'Oumma musulmane pour faire avancer leur propre complot, a-t-il précisé. Israël et ses mercenaires, a-t-il souligné encore, considèrent la nation yéménite comme leur ennemi commun. Et Al-Houthi faisait référence au certains régimes arabes de la région qui ont conclu des accords de normalisation avec le régime israélien, des accords de normalisation soutenus par les États-Unis. Les positions que les Émirats Arabes Unis, le régime sioniste et l'Arabie saoudite adoptent contre le peuple yéménite lors de leur réunion sont très claires, a souligné encore le leader du mouvement yéménite Ansarallah Abdulmalek al-Houthi. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Damas un juriste français spécialisé des questions internationales, Maître Arnaud Develet. Maître Develet, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Oui, bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à votre invité. Et je souhaiterais féliciter le peuple iranien pour l'anniversaire de la révolution aujourd'hui.
Merci infiniment, merci beaucoup. Et l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, Maître de Volée, c'est un analyste politique et spécialiste des questions internationales qui est avec moi pour cette émission depuis Vaucluse. Il s'agit de M. Bernard Cornu. M. Cornu, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour et bonjour à mon collègue à Damas.
Merci, merci.
J'aimerais bien aller bientôt.
Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Bon, M. Cornu l'a dit tout à l'heure, va se rendre bientôt à Damas. Ce serait peut-être une occasion de, en fait, d'y rencontrer Maître Arnon de Volée également lors de son séjour en Syrie. Monsieur de Cornu, comme première question, je viens de lancer le sujet. Comment analysez-vous ce qui se passe actuellement entre la résistance yéménite, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et également de ceux qui parrainent cette guerre d'agression contre le Yémen, très particulièrement les États-Unis?
Hélas, cette guerre au Yémen continue et surtout les Émirats arabes unis ont repris participation au combat alors qu'il y a quelques mois, il s'était, avant la fin de l'année, à la fin de l'année dernière, il s'était retiré de cette guerre qui dure depuis 7 ans. Et il s'était, d'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères s'était rendu à Damas pour négocier quelque chose. On n'a pas su quoi, mais il est temps d'arrêter ces guerres du Moyen-Orient, que ce soit en Syrie et que ce soit au Yémen. Et bien sûr aussi arrêter les troubles en Irak. L'intervention américaine dans la politique de l'Irak. Les Émirats arabes unis ayant repris leur intervention dans cette guerre, il est assez normal que les Houthis aient de nouveau attaqué et plus profondément sur le territoire même d'Abu Dhabi. Je pense que l'enjeu est d'arrêter cette guerre au Moyen-Orient et d'arrêter le soutien de ces pays pétroliers qui ont beaucoup d'argent à dépenser pour acheter des armes, des systèmes de défense et des systèmes d'attaque en gaspillant leur disponibilité pétrolière dans ces guerres destructrices.
Et d'autant plus que M. Cornu, ces pétrodollars aussi comptent beaucoup pour en fait les puissances qui soutiennent cette guerre d'agression contre le Yémen, des puissances qui se rangent du côté, si vous voulez, des agresseurs. Je parle très particulièrement des États-Unis, M. Cornu.
Bien sûr, les États-Unis ont une industrie d'armement très puissante et ont besoin d'exporter massivement vers les pays qui peuvent payer. Ce sont effectivement les plutocraties de la péninsule arabique. Les États-Unis, on vient de l'annoncer, ont maintenant 30 000 milliards de dollars de dettes. Tout cet budget de la défense américaine, tous ces investissements dans les armes sont en fait faits avec du dollar qui est massivement endetté. Et il y a une domination, disons, médiatique et géopolitique des États-Unis qui est tout à fait abusive à cause de cette guerre massive, de cette dette massive des États-Unis et de la domination du dollar dans les échanges internationaux et dans les échanges financiers, ce qui leur donnait un pouvoir exorbitant, leur permettant d'exercer des sanctions dans les pays sans, disons, recours au droit international.
Merci beaucoup. Maître de Volée, en fait, il y avait un responsable de la résistance yéménite qui avait dit que voilà, les Émirats arabes unis se sont transformés en un outil au service du régime israélien. Il faisait en fait des références à cette visite effectuée par le président du régime israélien aux Émirats arabes unis, ses entretiens, si vous voulez, avec les responsables de ce pays. C'est dans ce contexte qu'il y a eu ce discours du leader du mouvement auprès d'Ansar Allah, dont j'ai mentionné une partie, si vous voulez, tout à l'heure, et d'autant plus que, en fait, le porte-parole des forces armées yéménites a lancé, c'était hier, mardi, une autre eau sévère, une mise en garde contre les Émirats arabes unis, maître de volée.
Oui, absolument. C'est d'ailleurs l'aspect pervers de ces accords de normalisation, c'est que quelque part, au travers, par exemple, de l'autorisation donnée par l'Arabie saoudite du survol de son espace aérien pour le président Herzog de se rendre à Abu Dhabi, et effectivement les déclarations ensuite par l'entité sioniste portant sur des propositions et des offres d'assistance explicites aux Émirats arabes unis, afin de, si je puis dire, contrer les actions de la résistance yéménite qui ne sont que des actions fondées et ancrées en droit international dans une défense, s'ils se défendent tout simplement, laisse entendre maintenant que les masques sont tombés et qu'on peut parler d'ores et déjà maintenant d'une coalition qui ne se cache plus. Ce n'est plus juste les monarchies golfiennes, hein, telles que l'Arabie saoudite, les Émirats, mais maintenant, c'est effectivement la participation ouverte de l'entité sioniste qui très peur effectivement de la résistance yéménite, puisque la distance effectuée par les missiles et autres drones de la résistance yéménite vers Abu Dhabi sont peu ou prou les mêmes, la même distance que celle qui sépare le Yémen du port d'Elat, et en cela les sionistes sont extrêmement préoccupés parce que la résistance yéménite a vocation à si je puis dire assister et prendre part à la libération de Paris, hein, donc et sans parler bien sûr du contrôle de la mer Rouge et de l'incapacité pour ces États qui souhaiteraient pouvoir établir une hégémonie sur la région, de contrôler les détroits au sud du Yémen, et partant de là, ça devient une situation maintenant où même les Américains, qui ont, il faut le rappeler, vendu pas moins de 23 milliards d'armes aux Émirats arabes unis, qui malgré les déclarations de l'administration Biden il y a presque un an de cela, portant sur leur désir de mettre, si je puis dire, les Saoudiens un petit peu sous contrôle, sont sur le point de vendre 650 millions de dollars de missiles qui sont en fait à nature défensive, mais plutôt utilisés pour maintenir, si je puis dire, l'offensive saoudienne en l'état. Donc les Américains ne se cachent plus non plus. Ils ont débarqué des contingents dans la province à l'est du Yémen. Ils continuent à débarquer et à assister en termes des bases de données pour les cibles. Et ce sont les civils yéménites qui en payent le prix, avec cette idée maintenant aussi de s'attaquer aux antennes de télécommunication du pays afin d'empêcher tout rapport et toute nouvelle et tout témoignage sur notre terrain d'être, si je puis dire, émis dans le monde entier pour que la pression qui doit être plus que jamais mise sur les pays qui soutiennent et financent cette agression soit amenée à faire face à leurs responsabilités. Et je pense qu'il faut voir les choses dans un contexte plus élargi. Parce que c'est la même méthode que l'on voit maintenant en Europe avec cette histoire d'Ukraine. Tout est manipulé. Nous sommes en présence d'une administration américaine dont le chef exécutif est extrêmement diminué, qui ne semble pas avoir toutes ses facultés. Donc, la nature ayant horreur du vide, toute une bureaucratie et une série de clics au sein de l'État profond américain s'est engouffrée dans dans ce vide laissé par une absence de compétences au niveau de la Maison Blanche. Et on est en cela en présence d'une situation qui peut simultanément se déclencher de manière beaucoup plus qualitative, non seulement au Moyen-Orient, mais aussi en Europe.
Maître, monsieur Cornuche, tout est manipulé, pour reprendre en fait cette expression employée tout à l'heure par Maître de Develay. C'est dans un tel contexte que, par exemple, les grandes puissances, très particulièrement les États-Unis, au lieu, si vous voulez, d'agir et d'apporter leur contribution pour mettre fin à cette guerre dévastatrice contre le peuple innocent et yéménite. Il y a eu cette conversation téléphonique entre le secrétaire américain à la Défense et le prince héritier des Émiratis. Et à la suite, à l'issue, si vous voulez, de cette conversation téléphonique, il a été annoncé que les États-Unis vont envoyer un navire de guerre, un navire et plusieurs avions pour soutenir les Émirats arabes unis contre la menace dont fait l'objet et ce pays. Vous voyez, M. Cornuit, on dit rien lorsqu'il y a ces frappes contre des zones résidentielles au Yémen, mais lorsqu'il y a une riposte de la résistance yéménite face à un pays qui fait partie de cette coalition d'agression contre le Yémen, en l'occurrence les Émirats arabes unis, en fait les États-Unis annoncent vouloir envoyer des navires, des bâtiments de guerre et des avions pour soutenir ce pays agresseur, M. Cornu.
Tout à fait, parce que ce sont des pays pétroliers qui ont beaucoup d'argent et qu'effectivement les marchands d'armes américains et aussi français tentent toujours de placer les armes dans les pays qui sont très riches et ou à défaut dans les pays dans lesquels ils peuvent négocier des garanties d'État. On a vu ça avec l'Égypte, puisque l'Égypte n'a pas beaucoup de ressources financières et que la France a vendu quand même des avions avec la garantie de l'État, ce qui est assez risqué pour les contribuables français. Tandis qu'avec effectivement les pays qui ont des excédents pétroliers massifs, des exportations, le paiement il est assuré. Voilà, donc ce sont les pouvoirs de l'argent qui dominent le monde et qui dominent nos politiques, hélas, y compris par exemple en France, où notre ministre des Affaires étrangères, Le Drian, s'occupe beaucoup plus de vendre des armes que favoriser des négociations de paix entre toutes les parties du Moyen-Orient.
Et quand même, ces armements, cette quantité massive d'armements qui a été vendue, si vous voulez, à ces pays, dont les Émirats arabes unis, restent quand même presque inefficaces, M. Cornu, face, si vous voulez, à la résistance d'un peuple qui fait l'objet d'une guerre d'agression depuis 2015, M. Cornu.
C'est sûr qu'il y a une évolution avec maintenant l'existence de drones armés qui peuvent être télécommandés à distance et qui sont moins facilement détectables, beaucoup moins chers à l'achat et ne citant aussi pas de pilotes, donc ne faisant pas courir de risque à des pilotes. Les technologies militaires nouvelles changent un peu le profil de la guerre et on l'a vu ailleurs. Dans la guerre dans le Caucase, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, on a vu que les drones armés, maintenant, ont une place très importante dans les stratégies militaires.
Monsieur Develay, venez de faire allusion, si vous voulez, à ces accords d'Abraham et qui ont été conclus entre le régime israélien et certains pays, dont les Émirats arabes unis. Et le régime israélien aussi, à l'occasion de cette visite du président du régime israélien aux Émirats arabes unis, a annoncé vouloir en fait vendre des systèmes d'alerte rapide aux Émirats arabes unis. Et c'est dans un tel contexte que ce responsable de la résistance yéménite a dit que les Émirats arabes unis sont devenus un outil au service d'Israël et les Émiratis ont fortement tort de s'appuyer sur en fait un régime comme le régime israélien pour vouloir assurer, si vous voulez, leur sécurité, monsieur Develay, parce que la résistance yéménite semble être déterminée à ne pas céder face à ces menaces et à ces agressions.
Oui, tout à fait. J'irais même plus loin. Je pense que des pays comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, font preuve d'une absence de vision stratégique à long terme, puisque effectivement, la résistance yéménite a complètement changé la dynamique de ce conflit, avec somme toute des moyens en termes financiers extrêmement modestes, mais avec des résultats et une efficacité redoutables. Les Émirats arabes unis semblent être un peu dans cette situation où ils sont intoxiqués par la chambre d'écho, si je puis dire, concernant leur soi-disant invulnérabilité. Mais il faut qu'ils comprennent une chose, ils n'ont pas de profondeur stratégique et ce serait tellement facile pour la résistance yéménite de frapper de manière décisive et précise des cibles qui mettraient à mal tout ce qui fait, en fait, jusqu'à présent, dans l'imaginaire, l'attrait de ce pays, eu égard aux investisseurs et eu égard à l'aspect du narratif que les Émirats, c'est quelque part, à défaut de remplacer, bien sûr, l'Arabie Saoudite dans l'imaginaire, en tout cas, et on l'a toujours dit, est un rival. Ou en tout cas un compétiteur affirmé de Riyad. Et c'est dans ce contexte-là que je pense qu'Abu Dhabi se fourvoie complètement, mais j'allais dire, quelque part, c'est aussi quelque chose que l'on peut voir dans la livraison d'armement ou dans la posture diplomatique de certaines grandes puissances qui peut-être pêchent par naïveté en termes de légalisme, pensant qu'ils ont affaire à des gens de bonne... Enfin, qui eux-mêmes respectent le droit international, alors que ce n'est pas le cas, et qui devraient peut-être, je dis bien peut-être, réviser leur position vis-à-vis de la résistance yéménite pour pouvoir comprendre que sur le long terme, c'est le cheval sur lequel il faut parier. Ce n'est pas en espérant à court terme faire des affaires avec tel ou tel pays, en espérant remplacer le fournisseur d'armes américain que... La vision stratégique à long terme peut être de manière cohérente mise en œuvre. Et je pense qu'au niveau diplomatique, c'est la même chose. Il devrait y avoir, en plus de l'ambassadeur de la République islamique d'Iran à Sanaa, il devrait y avoir le retour d'autres ambassadeurs et de grandes puissances, et pas des moindres, afin de donner à la résistance yéménite le soutien politique et diplomatique dont celle-ci a besoin.
Monsieur de Cordut, j'aurai une partie des propos de Maître de Velay pour vous poser cette question. Les Émirats arabes unis n'ont pas de profondeur stratégique et ils restent vulnérables face aux ripostes de la résistance. Est-ce de votre avis également ?
Tout à fait. Je crois qu'il faut ici rappeler l'histoire. Toutes ces divisions d'États ont été faites, en fait, dans le Golfe, ont été faites par l'Empire britannique. Sir Percy Cox, au début du siècle, essayait, au fur et à mesure qu'on découvrait des suintements de pétrole, essayait de créer des États, de soutenir certains chefs locaux. On l'a vu à Koweït dès 1899. Ça a été en fait ensuite sur la côte qu'on appelait la côte des pirates ou la côte de la trêve. Et même l'Arabie saoudite... s'est constitué avec un soutien des services britanniques, avec de l'or, des fusils, qui leur permettaient de faire des attaques envers la plaine mésopotamienne, envers l'Irak, qui leur a permis aussi, parce qu'ils avaient de l'argent et des moyens d'armes et de finances, de négocier avec le Yémen dans les années 30 pour obtenir que l'Arabie saoudite récupère la province de la Syrie par une concession très longue, qui a été d'ailleurs récemment renouvelée, l'Arabie étant en position de force et le Yémen en position de faiblesse. Donc il faut revenir à l'histoire et à toute la genèse des frontières du Moyen-Orient, qui est due en fait à l'émergence du pétrole au début du siècle pour assurer la chauffe des navires de guerre et ensuite pour approvisionner tous les véhicules diesel qui ont été construits massivement dès le début du siècle. Je crois qu'il est important de regarder à nouveau l'histoire et de défendre le droit des peuples à certaines autodéterminations. Je crois qu'il faudra un jour remettre en cause les frontières de cette région-là. Et en fait, soit l'avenir n'est que dans une unité régionale, une collaboration de ces pays, et pas du tout, et donc dans un partage aussi des ressources, de l'eau, des ressources du pétrole et du gaz, dans une sorte de fédération économique, comme nous avons tenté de le faire en Europe après les guerres fratricides qui ont ravagé par deux fois l'Europe, le continent européen.
Merci beaucoup, M. Bernard Cornu, analyste politique et spécialiste des questions internationales, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Vaucluse. Mes vifs remerciements vont également à vous, Maître Arnaud de Vollée, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Damas. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, à très bientôt.
L'idéologie et la pratique des courants takfiristes. Manifestation à Idlib en Syrie contre le Hayat Tahrir al-Sham pour exiger la libération des prisonniers. Le vendredi 21 janvier, le village de Deir Hassan, dans la campagne nord d'Idlib, en Syrie, a été témoin d'un rassemblement de protestations des dizaines de manifestants contre les arrestations arbitraires menées par le Hayat Tahrir al-Sham, l'ex-front al-Nusra, affilié à Al-Qaïda. La manifestation a commencé devant la grande mosquée du village et répondait à un appel du Conseil pour le rassemblement des familles du village de Deir Hassan. Les manifestants ont affirmé leur demande de libération de plusieurs détenus alors que le Hayat Tahrir al-Sham les a arrêtés. Les arrestations dans le village de Deir Hassan, qui visaient de nombreux civils et dignitaires du village, sans aucune raison apparente, continuent. Le village a également été témoin d'une manifestation de femmes pour exiger la libération des détenus dans les prisons du Hayat Tahrir al-Sham le 23 décembre 2021. Le Conseil pour le rassemblement des familles a exigé la libération de tous les prisonniers opprimés détenus par le groupe terroriste. Les zones contrôlées par le Hayat Tahrir al-Sham dans le gouvernorat d'Idlib, au nord-ouest de la Syrie, et une partie de la campagne occidentale d'Alep ont été le théâtre de nombreuses arrestations. En Syrie, cinq jours après l'attaque d'une prison de terroristes takfiristes par des membres de Daesh, les forces kurdes tentent de reprendre le contrôle de l'établissement. Les forces kurdes, soutenues par les États-Unis, tentent de resserrer l'étau mardi 25 janvier autour des takfiristes retranchés dans une prison du nord-est de la Syrie, tandis que les efforts s'intensifient pour mettre un terme aux affrontements qui durent depuis cinq jours et ont déjà fait 166 morts. Plus d'une centaine de membres du groupe Daesh avaient pris d'assaut, jeudi dernier, la prison de Gayran à Hasake, l'une des plus grandes abritant des takfiristes en Syrie, avec des camions piégés et des armes lourdes. Les forces kurdes tentent de resserrer l'étau autour des combattants takfiristes qui se sont terrés dans le côté nord de la prison, a déclaré à l'agence France Presse le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, proche de l'opposition, Rami Abdelrahman. Il a précisé que les Kurdes procédaient à des opérations de fouilles et qu'il progressait lentement dans la prison de peur que des combattants de Daesh ne leur tendent une embuscade. Certains des prisonniers de Daesh à l'intérieur de l'établissement ont déjà été transportés par bus vers d'autres centres de détention ces derniers jours. Mais il n'a pas été précisé combien étaient restés à l'intérieur de la prison. Plusieurs mineurs détenus dans la prison ont été transférés lundi, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Si un accord pour un éventuel échange n'est pas conclu, il y aura un massacre. Des centaines de personnes seront tuées, a-t-il estimé. Les forces démocratiques syriennes, FDS, dominées par les Kurdes et soutenues par les États-Unis, n'ont pas confirmé les informations selon lesquelles plusieurs gardiens étaient détenus par des combattants de Daesh. Ils ont cependant signalé que 250 détenus de Daesh s'étaient rendus mardi, portant à 550 le nombre total de takfiristes qui ont capitulé. Les FDS, opérant sous couverture des forces aériennes de la coalition internationale menée par Washington, ont déployé des unités d'élite et des véhicules blindés à l'intérieur et autour de la prison, une ancienne école reconvertie en centre de détention très surpeuplé. Un assaut semblait imminent depuis lundi matin, mais l'Observatoire syrien des droits de l'homme a déclaré que les forces kurdes étaient réticentes à lancer l'attaque en raison de la présence d'otages à l'intérieur de la prison. Les FDS s'attendent à ce que les combattants takfiristes assiégés soient à court de munitions et de fournitures, a déclaré Rami Abdelrahman. Selon lui, des pourparlers étaient en cours pour que certains membres des forces kurdes et du personnel pénitentiaire emprisonnés à l'intérieur soient libérés en échange de soins médicaux pour les combattants takfiristes blessés. L'Observatoire syrien des droits de l'homme estime que 27 otages sont détenus à l'intérieur de la prison et 40 personnes sont portées disparues. Rami Abdelrahman a indiqué que les membres étrangers de Daesh seraient opposés aux négociations, mais que de nombreux ressortissants syriens parmi les détenus étaient favorables à des pourparlers d'échange. Près de 45 000 personnes ont fui leur domicile après l'assaut de la prison et des intenses combats qui ont suivi, selon l'Organisation des Nations Unies. La plupart des détenus de la prison avaient été capturés par les forces kurdes soutenues par les États-Unis fin 2018 et début 2019, durant les derniers jours du califat autoproclamé du groupe takfiriste. L'ONG Save the Children a dit avoir reçu des messages vocaux d'un adolescent australien qui a été emmené en Syrie par ses parents à l'âge de 11 ans. « Il n'y a pas de médecins ici qui peuvent m'aider », peut-on l'entendre dire, après avoir expliqué qu'il a été blessé à la tête et à la main lors des violences. « J'ai très peur. Il y a beaucoup de cadavres devant moi », a-t-il également déclaré dans l'enregistrement, dont l'agence France Presse n'a pas pu vérifier l'authenticité. Selon des groupes de défense des droits de l'homme et l'Organisation des Nations Unies, plus de 700 mineurs seraient détenus dans la prison. La plupart de ces jeunes personnes sont originaires de Syrie, d'Irak, mais aussi de dizaines d'autres pays étrangers, selon Save the Children. les Kurdes, qui contrôlent des régions du nord et nord-est de la Syrie, réclament en vain depuis des années le rapatriement de quelques 12 000 takfiristes de plus de 50 nationalités, de pays européens et autres, détenus dans leurs prisons.